Chapitre 10. Une mesure hardie. Mistress Barnaby accomplit un tour de force et Lord Mucklebury un tour d'adresse. Une visite aux curiosités de la ville. La veuve se décide à entreprendre un nouveau voyage. Monsieur Morrison, qui n'était pas sans avoir quelques affaires, avait prévenu ces dames qu'il ne pourrait pas venir les chercher en voiture le lendemain avant 2 heures, et Mistress Barnaby avait résolu de profiter de l'espace de temps qui séparait son déjeuner de l'heure du rendez-vous pour faire en secret une visite à Lord Mucklebury. Tout en ayant pris son parti sur cette triste aventure, elle regardait comme encore possible que sa seigneurie ne fût pas insensible à une douleur exprimée par des yeux qu'elle avait admirés avec tant de véhémence, et à tout prendre, il y avait quelque chose de si touchant dans l'idée de cette dernière entrevue qu'elle ne pouvait se refuser à elle-même la satisfaction de la tenter. Elle dit donc à Agnès qu'elle avait quelques emplettes à faire avant d'aller visiter la ville, mais qu'elle irait seule. Puis, montant à sa chambre à coucher, elle s'était faite aussi belle que possible, avec un peu moins de rouge toutefois que d'habitude, afin que le traître pût constater sur son visage les ravages de la douleur. Et elle était partie pour son expédition. Quand elle eut atteint Piccadilly, elle fit signe à une voiture qui, peu d'instants après, la déposait saine et sauve à l'hôtel Mivart. « Lord Mucklebury est-il ici ?» demanda-t-elle avec autorité au premier garçon qu'elle rencontra. « Oui, madame, » fut la réponse. « Sa seigneurie est en train de déjeuner. »«
Il faut que je le voie à l'instant. »
« Êtes-vous attendue, madame ?» demanda le discret employé en la regardant avec finesse. « Sa seigneurie est absolument sur le point de son départ et est trop occupée, je crois, pour recevoir personne. »«
C'est un rendez-vous, hein ?» répétait l'homme d'une façon qui n'était pas des plus respectueuses.
« Eh bien, oui !» répondit la veuve qui ne savait pas rougir. « Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'appeler son domestique, Joe. » dit un autre fonctionnaire de la serviette, attiré par la tournure de la dame.
Tenez, prenez donc ce souverain, dit Mistress Barnaby tout bas.
Ce conseil parut probablement le meilleur au garçon, car prenant la pièce de monnaie avec une dextérité si habile que c'est à peine si l'action fut perceptible, il lança à la dame, de son œil expérimenté, un regard qui signifiait suivez-moi, et se glissant tout le long des corridors et des escaliers, il finit par la conduire jusqu'à la porte de l'appartement de Lord Mucklebury. Puis, doutant probablement que l'office qu'il venait de remplir fût accepté avec autant de reconnaissance par le gentleman que par la dame, il n'attendit pas que la porte s'ouvrit et dit « Voilà sa chambre !» Puis disparut, laissant Mistress Barnaby annoncer elle-même sa personne si malmenée. Elle était bien un peu effrayée, mais toujours résolue, et après une pause d'un moment pour reprendre haleine, elle ouvrit la porte toute grande et entra. Ce qu'avait dit le garçon était strictement vrai, car sa seigneurie était bien en train de déjeuner tout en faisant ses malles. En robe de chambre, une tasse de café dans une main, un trousseau de clés dans l'autre, le noble lord se tenait debout à côté de son valet de chambre qui, agenouillé devant une valise, essayait en vain de la fermer. Lord Mucklebury faisait face à la porte quand elle s'ouvrit. Il leva les yeux. Il ne s'attendait certainement pas à la vue de l'objet qui se présentait devant lui, mais le sang-froid avec lequel il supporta cette vue fit honneur à sa philosophie. « Mistress Barnaby !» s'écria-t-il avec un sourire auquel le domestique sembla prendre part, car il détourna la tête afin de cacher ce qu'il éprouvait. « Mistress Barnaby !» Que c'est aimable, mais combien je gémis qu'une démarche aussi gracieuse tombe à un moment où j'ai si peu le loisir d'exprimer ma gratitude. Ma chère madame, je pars à l'instant pour le continent.
Je le sais, monsieur, je ne le sais que trop, répliqua la veuve, que ce ton enjoué embarrassait au suprême degré.
Permettez-moi pourtant de vous entretenir un instant avant votre départ.
Comment donc ? « Asseyez-vous sur ce sofa, Mistress Barnaby. Avec quel chagrin je regrette que des moments si délicieux... »«
Que le diable vous emporte, Rawlins. Vous allez faire éclater les charnières si vous les forcez ainsi. »«
Ma chère madame, je suis vraiment honteux jusqu'à la mort, mais sur mon âme, je n'ai pas un moment. »
Je désirerais vous parler, milord, quand votre valet ne sera plus là. »
Bien chère Mistress Barnabé, il ne faut pas faire plus attention à Rawlins qu'à cette cafetière. Vous n'avez pas idée de la valeur de ce garçon. Vrai comme l'acier, silencieux comme la tombe. Ça y est, Rawlins, je vais mettre le pied dessus tandis que vous donnerez un tour de clé. Tenez, c'est celle qui est toute tordue.
Lord Mucklebury, vous devez bien savoir, commença la veuve.
Savoir? Grand Dieu, oui! « Naturellement, je sais. Mais que voulez-vous que j'y fasse, ma bien chère Mistress Barnabé? Il faut que j'arrive à temps pour le bateau, vous voyez? Comment se porte cette chère bonne Miss Morrison ?»«
Maintenant, le nécessaire de toilette, Rawlins. N'oubliez pas le savon. J'ai fini celui qui y était.
Au nom de la charité, ne dites pas à cette excellente amie dans quel désordre vous m'avez trouvé. Elle est si soignée. Je suis sûre qu'elle... Pensez au bouchon des flacons, Rawlins. Mettez un peu de coton sur chacun d'eux.
Et c'est ainsi, Lord Mucklebury, que vous recevez celle qui...
Je sais ce que vous voulez dire, ma charmante amie, interrompit sa seigneurie en lui tendant une assiette de rôti beurré. Vous trouvez que je suis l'ours le plus mal léché du monde. Non? Vous ne voulez pas déjeuner avec moi? Mais vous voudrez bien m'excuser, chère amie, car j'ai un long trajet devant moi. Et tout en parlant ainsi, Lord Mucklebury se rasseyait à table, remplissait une seconde fois sa tasse de café, brisait la coquille d'un œuf et se mettait pour tout de bon à manger un excellent déjeuner. La veuve, fort embarrassée, ne savait que dire ou que faire. S'il s'était montré dur, colère, ou silencieux, ou maussade, ou enfin dans toute autre disposition d'esprit que cette bonne humeur enjouée, elle aurait bien mieux su comment s'y prendre. Mais il lui passa par la tête que la façon d'agir de Lord Mucklebury, aussi bien que tout ce qui avait eu lieu auparavant, devait être le résultat d'une éducation du grand monde. S'il en était ainsi, plutôt que de trahir par une naïve surprise sa rustique ignorance en fait de belles manières, elle aurait préféré vivre sans amoureux pendant toute une série de semaines. Il s'ensuivit la pensée terrible que, par cette ignorance, elle avait failli perdre l'occasion qui lui était offerte de former avec un père du royaume une amitié qui pouvait lui faire honneur et lui être utile, aussi bien dans son pays qu'à l'étranger. Par bonheur, Lord Mucklebury avait réellement faim. Il mangea de si bon cœur pendant une minute ou deux que la dame eut le temps de se remettre de son embarras. Elle reprit donc la conversation sur le ton nouveau que lui suggérait son ambition, avec une justesse que sa seigneurie ne put s'empêcher d'admirer.
« Bien, je comprends, milord. J'étais venu pour vous demander de vouloir bien vous charger d'une commission pour moi à Rome, où les journaux m'avaient appris que vous allez. Mais vous êtes trop pressé et trop affamé pour accorder un moment à une ancienne connaissance. »
« Non pas sur mon âme !» s'écria Lord Mucklebury, mêlant à son regard quelque peu de l'admiration d'autrefois. « Pour vous, il n'y a pas de commission au monde, de New York à Jérusalem, que je ne voulusse exécuter avec la fidélité d'un esclave, soit de l'Orient, soit de l'Occident. Quels ordres avez-vous à me donner, ô séduisante Mistress Barnabé ?»«
Simplement, milord, que vous vouliez bien m'acheter une parure de camée sur coquille, aussi semblable que possible à celle de Lady Stephenson. » « Je ne doute pas, ajouta-t-elle en tirant très habilement sa bourse pour éviter tout malentendu, je ne doute pas que votre seigneurie, qui a tant voyagé, ne puisse me dire à peu de choses près le prix que cela peut valoir. Environ 10 livres sterling, je pense. »
Et 10 souverains d'or furent immédiatement tirés de la bourse et étalés sur la table. Lord Mucklebury, délicieusement ravi de cette brillante preuve de la puissance de versatilité de la veuve, lui prit gaiement la bourse des mains et, replaçant l'argent dedans, lui dit « Ce n'est pas de cette façon que j'exécute les commissions que veulent bien me donner mes belles amies, Mistress Barnabé. Je vais noter votre désir sur mon agenda comme ceci. Une parure des plus beaux camées coquilles de Londres pour la charmante Mistress Barnabé. Voyez, il me serait bien difficile de l'oublier, et quand j'aurai le plaisir de vous les apporter, nous aviserons quant au paiement. » Il remit la bourse à la veuve et lui baisa la main avec l'exquise galanterie des beaux jours de Cheltenham. sur quoi, sagement, elle se leva, disant avec tout l'air d'être fort satisfaite de sa réception « Adieu, milord, pardonnez-moi de m'être présentée chez vous de cette façon et laissez-moi espérer que j'aurai le plaisir de vous voir à votre retour. » Et elle partit, parfaitement convaincue que cette nouvelle conjecture était exacte, que les lords avaient des privilèges que les autres hommes n'ont pas. Mais elle était bien résolue à garder pour elle seule et cette conviction et l'entrevue qu'il avait fait naître. Elle revint chez elle d'assez bonne heure pour pouvoir se reposer et se rafraîchir d'un verre de sa boisson favorite, le porteur, avant que M. Morrison n'arrivât. Si, avant d'avoir eu cette entrevue définitive avec son noble ami, elle avait trouvé que l'avocat était digne de quelques petites agaceries, elle l'en trouvait bien plus digne encore après que l'entrevue avait eu lieu. La matinée ainsi que la soirée s'écoulèrent donc avec l'apparence du plaisir le plus vif, aussi bien du côté du gentleman que de celui de la dame, et Mistress Barnaby commença à trouver, comme cela lui était déjà arrivé dans les occasions précédentes de même nature, qu'il serait infiniment préférable qu'Agnès ne fît pas partie de leur société. Plus d'une fois, pendant le cours de la journée, la même idée était venue à l'infortunée jeune fille. Toutefois, que le désir qu'Agnès eût enfanté cette pensée, ou que sa tante eût laissé voir avec intention quels étaient ses sentiments à cet égard, la chose importe peu. Seulement, quand le lendemain matin, Agnès, se plaignant d'un mal de tête, exprima timidement le désir de rester à la maison, sans hésiter, Mistress Barnaby répondit « Je crois que vous avez raison, Agnès, vous n'êtes pas forte pour ce genre d'exercice. Aussi, il est bien heureux que vous ayez apporté vos livres. Déballez-les et mettez-vous au travail. » Cette délivrance fut accueillie avec des remerciements. Pendant le loisir qui lui arrivait, Agnès écrivit à Lady Stephenson et à Miss Peters. Et, quoiqu'elle n'eût à donner de bien satisfaisantes nouvelles ni à l'une ni à l'autre, elle éprouva en leur écrivant un plaisir qu'aucune autre occupation n'aurait pu lui fournir. À partir de ce moment, il se passa plusieurs jours pendant lesquels Mistress Barnaby ne resta presque pas à la maison. Elle rentrait pour le dîner, repas que M. Morrison partageait régulièrement avec ses deux dames. Plusieurs semaines s'écoulèrent de cette façon, Mistress Barnaby se disant que dans la carrière de toute femme hors de l'ordinaire, il ne pouvait manquer d'y avoir des interrègnes, et que pendant ces intervalles, un admirateur actif et intelligent n'était pas à dédaigner. M. Morrison, pensant de son côté qu'il serait fort agréable à un pauvre avocat demeurant Red Lion Square, obligé de travailler quand même pour payer son loyer, son tailleur et son domestique, de devenir le mari d'une veuve qui dépensait son argent en plaisir avec tant de facilité. Il était pourtant bien certain que jusqu'ici, aucune idée sérieuse d'épouser M. Morrison n'avait passé par la tête de notre héroïne. Tout au contraire, elle avait résolu d'aller visiter Paris aussitôt qu'elle aurait bien vu Londres. Elle n'était pas sans avoir l'arrière-pensée qu'épouser un grand seigneur français serait une chose fort enviable et du meilleur genre. Toutefois, ses réflexions ne nuisaient en rien à l'aménité de ses rapports avec son assidu Sigisbée. Agnès la gênait aussi peu que possible, le temps était splendide. Bref, il eût été difficile de rencontrer dans la métropole des Trois Royaumes-Unis une femme de 37 ans faisant ses débuts dans un état de satisfaction plus complet. Mistress Barnaby était arrivée à Londres un jeudi soir. Le premier dimanche, elle avait visité l'établissement des enfants trouvés. Elle avait vu tous les petits-enfants et entendu un prédicateur populaire. Toute chose qui constituait une des distractions favorites de M. Magnus Morrison. Le dimanche suivant étant, selon les projets qu'elle avait secrètement formés, le dernier qu'elle se proposa de passer en Angleterre, elle demanda à Agnès de venir avec elle à l'église, M. Morrison lui ayant laissé sa matinée libre à cause de ses occupations particulières. Agnès y consentit volontiers et elles partirent pour entendre le service du matin au temple de Saint-James. En revenant chez elle, notre veuve, vêtue de couleurs éclatantes et pleine d'entrain à la pensée de retrouver M. Morrison, qui devait venir goûter avec elle avant de partir pour Kensington Gardens, remarqua, tandis qu'elle cheminait avec grâce tout le long des rues encombrées de monde, que parmi tous ceux qui la regardaient, il y avait un individu qui suivait tous ses mouvements avec une attention toute particulière. Le sentiment qu'éprouvait Miss Rhys Barnabé lorsqu'un homme la regardait n'était jamais que du ravissement par la pensée du compliment qu'elle croyait renfermé dans l'acte lui-même. Elle souriait donc niaisement, jouant de son mieux avec son ombrelle, jusqu'à ce qu'à la fin, ne pouvant faire remarquer cet événement flatteur à personne d'autre, elle se décida à dire à Agnès, comme elle tournait le coin de leur Half Moon Street, « Il faut que l'on sache que son admirateur le tournait aussi. » « Voyez donc cet homme, Agnès, je vous prie. Il n'a cessé de me regarder et de me suivre depuis que nous sommes sortis de l'église. Là, tenez, le voici qui va nous dépasser encore. Est-il assez effronté ?»« Peut-être vous connaît-il, ma tante, » dit Agnès en levant les yeux sur l'homme au moment où il est dépassé. « Je crois bien l'avoir vu à Cheltenham. » Cette supposition fit monter aux joues de Miss Rhys Barnabé une couleur si vive qu'elle fut perceptible en dépit de tout son rouge. « Vous l'avez vu à Cheltenham, et où cela, je vous prie ?»«
Je ne me rappelle pas bien, dans une boutique, je crois. »
Miss Rhys Barnabé ne fit plus de questions et frappa à la porte de son logement avec une certaine hâte. Mais l'individu, quoi qu'il eût traversé la rue, passant près d'elle pour accomplir ce mouvement, n'avait fait aucune tentative pour lui parler et avait continué son chemin. Non pas toutefois sans avoir assez réveillé dans la pensée de la veuve le souvenir des dettes qu'elle avait laissées à Cheltenham pour lui faire prendre le parti immédiat de quitter Londres le lendemain. M. Morrison l'attendait, toujours aussi charmant, toujours aussi dévoué, ce qui lui fit oublier presque complètement ses récentes alarmes. Elles avaient pourtant été assez vives pour amener le résultat suivant. Agnès ayant décliné, comme à l'ordinaire, l'invitation d'accompagner sa tante, celle-ci, attirant la jeune fille dans l'embrasure de la fenêtre, le plus loin possible du gentleman, lui disait à demi-voix « J'ai l'intention de quitter Londres demain soir. Employez votre temps à tout emballer. » Sur quoi elle se retournait gaiement vers son cavalier et partait avec lui. Pendant tout le cours de cette ennuyeuse semaine, Agnès avait fait tout son possible pour savoir quels étaient les plans de sa tante dans le désir d'obtenir quelque indication qui lui permît d'écrire une autre lettre à Lady Stephenson. Mais on lui avait toujours répondu si vaguement qu'elle n'avait rien pu conclure et vivait en proie à un véritable supplice partagé entre l'espoir et la crainte. L'espoir d'être forcée de retourner à Cheltenham, la crainte que, n'ayant pu éclaircir à temps le mystère qui enveloppait son avenir, elle ne pût suivre la recommandation qu'on lui avait faite dans le cas où les choses tourneraient au pire. Elle se mit donc à obéir à l'injonction de sa tante, et après qu'elle eut rapidement achevé cette tâche, elle commença sa seconde lettre à ses amis de Cheltenham, leur disant exactement tout ce qu'elle savait et les prévenant aussi que, ne sachant pas tout, elle ne terminait pas sa lettre dans l'espoir que, suivant la coutume attribuée aux dames, son post-scriptum deviendrait le point important de sa missive. À Kensington Garden, le temps s'était écoulé d'une manière charmante grâce aux jolis chapeaux des femmes et aux élégants gilets des hommes. Aussi arriva-t-il que 7 heures étaient presque sonnées avant que les promeneurs fussent rentrés pour dîner. Et Miss Rhys Barnabé, se déclarant extrêmement fatiguée, M. Morrison se retira 1 heure plus tôt que d'habitude, paraissant fort au courant des intentions de la dame pour le lendemain, puisqu'Agnès lui entendit dire « Eh bien donc, Miss Rhys Barnabé, nous avons encore pour demain une délicieuse excursion. Vous serez ravie des Surrey Gardens, et je serai ici à 2 heures, bien chagrin de penser qu'au moins pour le présent, ce sera la dernière fois. » Une cordiale poignée de main suivit ce petit discours et la porte se referma sur lui. « J'ai fait ce que vous m'avez commandé, ma tante. Toutes vos affaires sont apprêtées de façon que vous puissiez les placer comme vous l'entendrez et l'une des malles est à demi remplie, exactement comme vous l'aviez fait. Puis-je écrire dessus l'endroit où nous allons ?»«
Nous avons bien le temps de faire cela demain. Je suis morte de fatigue. Sonnez !» « Non, descendez vous-même, car la fille a l'air d'être d'une humeur à ne pas prendre avec des pincettes. Courez en bas, Agnès, et dites-lui de m'apporter mon porteur tout de suite. Et, j'y pense, vous me l'apporterez dans mon lit, car je ne puis plus tenir les yeux ouverts. » Ma tante, voulez-vous me dire où nous allons ? Dit timidement Agnès en prenant une des bougies pour s'éclairer le long des deux étages qu'elle avait à descendre.
« Ne me tourmentez pas maintenant, Agnès !» fut la réponse. « Je viens de vous dire que j'étais morte de fatigue. Il n'y a que vous au monde pour venir taquiner quelqu'un avec une pareille question en un moment comme celui-ci. Vous savez, du reste, quoique vous ne m'ayez jamais fait la grâce de m'en remercier, que je ne vous ai jamais emmené autre part que dans les plus délicieux endroits. Quelle autre jeune fille de province a joui de pareils avantages au même âge que vous ? Exeter, Clifton, Cheltenham, Londres. Et si vous ne m'agacez pas trop, si vous ne me forcez pas à vous mettre à la porte, je vous emmènerai maintenant à... Peu importe où, vous le saurez toujours assez tôt pour en être reconnaissante s'il y a jamais eu dans votre cœur quelque chose qui ressemblât à de la reconnaissance. Mais je suis bien bête d'en attendre de vous quand je vous vois planter là devant moi après que je vous ai demandé, comme si ma vie en dépendait, d'avoir la bonté d'aller me chercher un peu de bière. » Agnès ne répondit rien, mais en se couchant ce soir-là, elle se disait que ses craintes étaient plus fondées que jamais et qu'elle n'apprendrait le but du nouveau voyage de Mistress Barnabé que lorsqu'il serait trop tard pour éviter de l'accompagner n'importe où elle irait.